Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrián Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. En outre, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous pouvez trouver une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine. Maintenant, place à l'actualité. La quarantaine durera aussi longtemps qu'il le faudra pour que les Argentins soient en bonne santé et ne meurent pas, a déclaré le président Alberto Fernández lors d'une conférence de presse le samedi 23 mai, au cours de laquelle il a ratifié la prolongation de l'isolement social préventif et obligatoire jusqu'au 7 juin inclus. Avec cette extension, le pays comptera 80 jours de confinement avec une flexibilité plus ou moins grande selon les régions et le nombre de cas des personnes infectées. Les principaux arguments présentés par Fernández sont la multiplication des cas, l'expansion de la contagion, multipliée par 5 dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, qui comprend la capitale du pays et des zones très habitées de la province de Buenos Aires, et l'accent est mis sur les quartiers populaires dans tout le pays, où la densité de population est plus importante. En outre, le gouvernement ayant lui-même reconnu qu'au moins 11 millions de personnes dépendent déjà de l'aide de l'État pour atténuer la crise économique et de l'emploi provoquée par la pandémie, on a appris qu'UNICEF Argentine a estimé que la pauvreté aura un impact de 59% sur les enfants et les adolescents argentins. Cela signifie que 6 enfants sur 10 seront pauvres d'ici la fin de l'année. Le président Fernández, malgré les affirmations sur la prolongation de l'isolement et la chute de l'économie, a insisté sur le fait que l'urgence sanitaire révèle l'inégalité dans laquelle nous vivons en Argentine. Mais il a assuré qu'il ne laissera pas passer l'occasion de construire un pays plus juste. La pandémie est venue aggraver la crise économique héritée par l'actuel gouvernement péroniste après 4 ans de libéralisme à outrance sous la présidence de Mauricio Macri, avec des taux de pauvreté et d'inflation records, en pleine récession et avec une dette extérieure qui pend comme une épée de Damoclès. Un rapport de France 24 datant de fin octobre 2019, c'est-à-dire un mois et demi avant son départ du pouvoir, parle du bilan économique désastreux du président Macri.
Comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. Es acá, es ahora. Vamos Argentina.
Le soir de sa victoire électorale en novembre 2015, Mauricio Macri promettait à l'Argentine un changement, le début d'une nouvelle ère. Son arrivée sonnait le glas du modèle social et protectionniste kirchneriste. Le nouveau président augurait un pays libéral et ouvert sur le monde et ses investisseurs. Croissance, fin de l'inflation, pauvreté zéro, une révolution de la joie. Mais 4 ans plus tard, le panorama est bien loin de celui annoncé. L'Argentine a sombré dans une crise profonde. La pauvreté a augmenté de plus de 10% et touche aujourd'hui un Argentin sur 3, un enfant sur 2. Dans ce bidonville du centre de la capitale comme dans beaucoup d'autres quartiers du pays, la faim est de retour et les soupes populaires ont bien du mal à satisfaire les demandes.
Les gens meurent de faim. Maintenant, ils ne mangent plus qu'une fois par jour en venant ici. S'il n'y avait pas ces soupes populaires, ils ne mangeraient plus du tout. Moi, j'ai mal, surtout pour les enfants. Les adultes, on peut tenir. Mais un enfant, s'il te réclame de la nourriture et que tu n'en as pas, qu'est-ce que tu lui dis ?
L'emballement de l'inflation, qui atteint aujourd'hui plus de 55%, affecte particulièrement le prix de la nourriture. Ici, plus de viande, peu de laitage, principalement des pâtes et du riz. La qualité des denrées envoyées par le gouvernement a baissé et les quantités n'ont pas augmenté à la mesure du nombre de nouveaux pauvres.
Il y a des gens qui n'ont même pas ça, une assiette de nourriture.
Ça me fait très mal, parce qu'on n'aurait pas dû en passer par là en Argentine. Ici, il y a tant de possibilités, tant de ressources. Et pourtant, c'est tout le pays qui souffre aujourd'hui.
Le pays est en récession depuis 3 ans et l'activité économique a plongé. 170 000 postes de travail ont été supprimés, 23 000 entreprises ont fermé. L'une d'elles, Eitar, qui fabriquait des pièces pour les installations de gaz, a fermé ses portes il y a 5 mois, laissant sur le carreau 200 employés qui occupent aujourd'hui les installations pour réclamer leurs arriérés de salaire.
Cette usine a résisté à toutes les crises économiques qu'a subi ce pays. Elle a 60 ans, mais malheureusement, elle n'a pas supporté cette dernière, celle de Macri. C'est que la chute de la consommation a été impressionnante. Les gens n'ont pas de quoi s'acheter un kilo de viande, alors ils ne vont pas changer leur gazinière.
En attendant l'autorisation légale pour récupérer les machines et fonctionner sous la forme d'une coopérative, les ouvriers d'Eitar, qui n'ont reçu aucun dédommagement, s'organisent pour faire rentrer un peu d'argent.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un peso, alors certains font du troc. D'autres comme nous vendent des sandwichs à la viande au bord de la route ou des vêtements d'occasion. On se débrouille comme on peut.
Les classes moyennes aussi ont dû passer au système D et réduire la voilure. Luciano et sa fille ont été contraints de laisser leur appartement il y a 2 mois pour emménager avec Elsa, la mère de Luciano. Le loyer avait augmenté de 50% alors que son salaire, pourtant bien au-dessus de la moyenne, n'a été revalorisé que de 16%. Quant aux factures d'eau, gaz et électricité, elles ont été multipliées par 30 depuis l'abandon des subsides par le gouvernement il y a 4 ans. Alors pour arriver à la fin du mois, ils doivent rogner sur tout. Le vainqueur, quel qu'il soit, héritera d'un pays extrêmement fragilisé, au peuple appauvri, à l'économie exsangue. Il héritera également d'une dette gigantesque, contractée ces 4 dernières années, notamment auprès du FMI, et dont les remboursements vont peser un peu plus sur l'Argentine. Le futur proche s'annonce dur.
La francophonie en musique présente.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine.
Vous l'avez tous reconnu en écoutant Aline, Christophe.
Auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée. Et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine.
Né Daniel Bevilacqua en 1945, Ce descendant d'Italien originaire du Frioul est décédé du Covid-19 le 16 avril 2020 à Brest. Vers l'âge de 8 ans, Édith Piaf et Gilbert Bécaud sont ses premières idoles. Il est marqué par Elvis Presley et James Dean. Et il reconnaît avoir également été influencé par Georges Brassens, comme il le dit dans cette interview de Claire Chazal sur France 5.
Ces chansons sont des micro-scénarios. C'est un créateur d'étincelles qui enflamme l'imaginaire.
La petite fille du troisième a toujours, oui, a toujours des problèmes.
Moi, je l'appelle l'homme de métal. Je trouve qu'il est il a un phrasé particulier, une manière de parler, puis il a ses lunettes aussi.
Christophe, en quelques chiffres, c'est 13 albums studio en 54 ans de carrière. Une victoire de la musique, un grand prix de la chanson décerné par l'Académie Charles Cros et un énorme tube écrit à 20 ans, 1965.
Et j'ai crié, crié à l'une pour qu'elle revienne.
Des airs qui ensorcellent, des sonorités qui font planer. Christophe est un esthète énigmatique, un dandy orageux, un apôtre du beau bizarre.
Je suis un mec de gimmick, un mec, un mélodiste.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier.
Musicien cinéphile, Christophe fascine Christophe Désarçonne.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Un véritable chasseur de son. Il part à la chasse, et puis à un certain moment, il revient bredouille, comme beaucoup de chasseurs, et puis à un certain moment, il revient avec des pépites.
Avec son ami Jean-Michel Jarre, il a écrit des classiques de la chanson française.
Peut-être un beau jour, voudras-tu retrouver avec moi les paradis.
Flambeur, acrobate ou pilote tête brûlée, Christophe fait de la musique comme un trapéziste qui se jetterait dans le vide sans filet.
C'est vrai que j'aime beaucoup être sur un fil comme ça, à 3 mètres d'altitude, sans le balancier.
Artiste avant-gardiste, il a exploré les sonorités électro dès le début des années 70.
C'est grâce à ces machines que je suis vivant. Je suis obligé de les aimer.
Animal nocturne, rocker, charmeur.
Seigneurita, dépêche-toi et remets ta robe de tata.
Christophe se nourrit d'inconnus, de rencontres, d'instants fugaces.
Je suis quelqu'un qui aime l'infini mais qui n'aime pas le futur. Donc, je vis la seconde qui vient.
Depuis quelques années, l'ex-chanteur Aminette s'est transformé en icône. Aujourd'hui, Christophe revisite son répertoire en compagnie notamment d'Eddie Mitchell, Camille ou encore Sébastien Tellier. Une manière de se réinventer en toute élégance, une fois de plus.
Alors, Christophe, vous grandissez en région parisienne, votre père est un entrepreneur, votre mère est couturière. Est-ce qu'il y a de la place pour la musique dans l'enfance de Daniel Bévilacqua, votre nom, votre vrai nom ?
Il y a de la place pour la musique parce que ma tante est pianiste classique, mais vraiment, bon, dans sa chambre, comme ça. Mais quand j'étais chez elle, j'entendais la résonance du piano, Chopin, vous voyez, donc c'était pas mal. Et c'est là où j'ai compris que, quand j'ai vu les partitions sur le piano, que c'était pas quelque chose que j'apprendrais, quoi. Tout de suite, parce que de toute façon, j'apprenais pas tellement. J'ai jamais eu envie d'apprendre.
Vous allez l'apprendre après.
Non, je suis autodidacte. Je connais pas la musique.
Mais vous allez toucher les instruments.
Oui, mais parce que je suis curieux, parce que j'aime la résonance du son, parce que chez ma mère aussi, au grenier, il y avait un piano que j'ai démonté quand j'avais 12-13 ans. J'avais déjà la passion du son, parce que j'avais acheté un magnétophone, Telefunken, à fil. Magnétique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bande, c'était un fil doré, vous voyez, magnétique, un peu nasillard, et j'enregistrais déjà du son là-dessus, j'avais 12-13 ans, quoi.
Et vous écoutiez Piaf, Bécaud, vous avez bien sûr parlé des chanteurs américains de rock et de blues,
bien sûr,
c'est ça qui vous pousse bien sûr à la musique, c'est eux.
Ouais, j'écoutais Piaf, j'écoutais Brassens surtout, parce que c'était un peu mon bluesman français, quoi. En fait, c'est Brassens qui m'a réellement envie de donner, de jouer de la guitare.
Et c'est avec cette guitare que vous commencez. Vous allez former un groupe, un premier 45 tours en 1963. Comment vous l'avez perçue, cette voix ? Comment vous avez compris que vous alliez faire quelque chose avec elle ?
Au départ, je faisais de la matière sonore. C'est-à-dire, je faisais de la, disons, un son avec un piano, des percussions, des résonances, des réverbérations. En fait, ce qui m'a donné envie de chanter, parce qu'en fait, j'aime pas tellement les voix de chanteur, j'aimais encore moins la mienne. Mais la résonance m'attirait. Donc, c'était pas une voix de chanteur, c'était ni la voix, comme je vous parle maintenant, c'était une voix trafiquée. Et moi, sur tous mes albums, c'est moi qui fais mes voix, je les mélange avec des choses, mais j'aurais pas du tout envie de vous chanter une chanson a cappella. Quand on me demande, je refuse.
Moi, je construis des marionnettes.
Ayant trouvé sa vocation, il apprend la guitare et l'harmonica et choisit Christophe comme nom de scène en hommage à la médaille de Saint-Christophe qu'il avait reçue de sa mère.
Les mignonnettes. Et je vais les présenter.
En 1965, en pleine époque yéyé, Aline devient instantanément un tube. Mais il connaît d'autres grands succès en 1973 et 1974 avec Les Mots Bleus et Les Paradis Perdus.
Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis. Thank you.
ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caveaux de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là.
Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
Sur ce clavier qui s'est jauni, j'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais.
Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Peut-être
un jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
La la la. As long as I have you.
Après une relative éclipse, il sort 5 albums entre 1996 et 2016, dont Les Vestiges du Chaos et les deux compilations Christophe, etc. Incontournable, Les Mots Bleus, repris comme un hymne le jour de sa disparition.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste
cœur subtil qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.